Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Par les temps qui courent, tous les soirs, une heure de conversation avec une artiste ou un artiste. Ce soir, c'est Hélène Bertin.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler papi.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Hélène Bertin. Je suis une femme, j'ai choisi pour m'exprimer des lieux cachés. L'intérieur de la maison, le jardin fermé. Tout d'abord dans ma maison, c'était une ruine, j'ai osé. Je n'ai pas essayé de faire une œuvre. Il fallait vivre et survivre avec ce que j'avais, un corps solide. Une œuvre liée au corps, l'utilitaire. J'aime le quotidien exceptionnel. Je pars du geste, quand je construis ou fabrique des objets. De 17 à 53 ans, si on fait beaucoup, il se passe plein de choses. Et je fais sans arrêt. Ce sont les mots de l'artiste Valentine Schlegel, à qui vous avez consacré plusieurs expositions, Hélène Bertin, dont une qui est visible en ce moment au Centre Régional d'Art Contemporain Occitanie à 7. Voilà plusieurs années que vous fréquentez son travail, que vous plongez dans la pensée, la pratique, la vie, tout est mêlé, de cette femme née sur la plage, comme elle disait, proche des pêcheurs, c'est toi, proche des enfants aussi, à qui elle proposait des ateliers dans les années 60 à Paris. C'est un travail serein et puissant à découvrir en regard de votre propre travail, pour lequel vous êtes lauréate du prix Aware 2019. C'est un prix qui récompense donc une jeune artiste française tous les ans. C'est donc à la croisée de ces deux pratiques artistiques qu'on va situer notre conversation de ce soir. Bonsoir Hélène Bertin.
Bonsoir Marie Richeux.
C'est une exposition à 7 qui est titrée par une question. Tu m'accompagneras à la plage. Elle vient d'où, cette question-là ?
Cette question, elle vient d'un ami de Valentine, Charles Bias-Camano. Charles Bias-Camano, c'est un pêcheur à la traîne. C'était le dernier pêcheur à la traîne de 7. Et c'était une question qu'il a dit juste avant de mourir. C'est une question qu'il a posée à sa fille, qui l'accompagnait souvent à la plage l'après-midi. Et lorsque Patricia m'a raconté cette histoire, j'ai décidé de titrer l'exposition comme ça. Parce que c'est une exposition qui parle d'accompagnement. Elle ne présente pas seulement Valentine Schlegel, mais trois autres personnes. Et à Bretigny, lorsque j'ai organisé la première exposition... qui est un autre centre d'art. L'exposition s'appelait « Cette femme pourrait dormir dans l'eau ». Et c'était aussi un titre qui avait été donné par un ami pêcheur de Valentine, mais un pêcheur de mer. Voilà.
Donc la plage, la mer, l'eau et la sieste aussi, et le sommeil seront assez présents dans notre discussion de ce soir, mais on va commencer par sa voix à elle.
J'ai vendu un jour à des amis un vase à fleurs. Ils m'ont fait venir car ils ne trouvaient aucune place dans leur appartement pour poser ce vase. Après le dîner, nous avons couru tout l'appartement avec le vase dans les bras et nous l'essayions partout. Il n'y avait qu'un seul endroit qui était possible. C'était la cheminée. Mais quelle cheminée ? Une cheminée traditionnelle, bien sûr. Trois pans de marbre énormes sur un panneau énorme. Mon vase à fleurs sur cette cheminée était stupide. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait faire une cheminée. J'ai beaucoup cherché qui pourrait faire cette cheminée. Ne trouvant personne, eh bien... Ils m'ont fait confiance et j'ai essayé. Ma première cheminée fut construite pour poser mon vase à fleurs. Au fond, une cheminée, c'est le même problème qu'un vase à fleurs. Un vase à fleurs est construit autour du vide. Une cheminée est construite autour du creux. Une fois que vous avez enlevé son habillage traditionnel, vous vous trouvez devant un foyer noir, devant un creux. Et il faut, autour de ce creux, il faut. Ce que j'ai essayé de faire, autour de ce creux, j'ai étiré les murs et j'en ai fait des étagères pour poser mes vases ou d'autres objets. J'en ai fait des coffres à bois et j'en ai fait des bancs. Ce que j'aime dans cette technique de l'animation du mur et des prolongements du mur, c'est son aspect construit, intégré, qui fait corps avec la maison, qui a un côté éternel, à moins qu'on ne l'attaque à la pioche. C'est toujours un faux côté éternel, mais le côté troglodyte. Si je pouvais tailler mes cheminées et mes maisons dans le rocher, je le ferais, je ne peux pas. Alors, je construis en sens inverse, mais comme si c'était taillé dans la masse.
Armi peschiem l'usar d'amor que non tol mangiar ni dormir ni sempre dura ni calor ni non badai ni non sospir ni in bau di nuit adagi ni sui conquits ni sui cucciats ni sui dolent ni sui irat ni non logui messaggi ni sui traïts ni enganats que batits men sui amours dats.
Hélène Bertin, lorsque vous entendez la voix de Valentine Schlegel, c'est une archive de 1962, qu'est-ce que vous reconnaissez de tout ce que vous savez d'elle ?
Bah, là, c'est assez particulier parce que donc Valentine, dans cet extrait, a pris son texte par cœur et ça se sent vraiment dans la diction. Et je pense qu'elle était un peu traquée par le trac, comme je suis actuellement à la maison de la radio.
Mais vous n'avez rien appris par cœur.
Donc ça, oui, j'ai rien appris par cœur, mais ça me fait doucement sourire d'entendre sa voix dans ces conditions d'enregistrement, qui sont des moments un peu particuliers. Donc c'est pas dans sa voix que là je vais retrouver quelque chose dont j'aimerais parler. C'est plus son discours par rapport à la création de ses cheminées qui m'intéresse, parce qu'elle raconte cette anecdote qui est passionnante de la création de sa première cheminée. Et donc dans cette création, on comprend qu'elle a commencé par un parcours de céramiste et qu'elle glisse doucement vers un autre parcours sculptural à plus grande échelle. Elle débute un travail de construction de cheminée et qui est réalisé pour la première fois comme un socle pour ses céramiques. Donc c'est surtout cette transition qui m'intéresse dans cet extrait.
La manière dont, en fait, les choses, elles se font presque par nécessité. On s'est promené dans l'endroit où vivaient mes amis à qui je venais d'offrir un vase, et puis, bon, bah, on trouvait nulle part où poser ce vase, alors on a eu besoin d'un endroit pour poser le vase, et je trouve que c'est assez important que ça existe à ce point dans son anecdote, et c'est pas anodin, parce que dans l'exposition, et on verra la position spéciale que vous occupez pour cette exposition, Hélène Bertin, mais cette idée du besoin, de l'utilitaire, de la manière dont on a besoin des choses, je trouve, est très présente.
Oui, effectivement, c'est une particularité de sa démarche, de répondre à des demandes fonctionnelles. Et c'est vrai que toutes les recherches plastiques qu'elle met en place, ça correspond à des objets qui sont des objets d'usage. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à son travail. Parce qu'au moment où j'ai rencontré son travail, j'étais encore étudiante aux Beaux-Arts de Cergy. Et je me posais vraiment des questions quant à la destination des œuvres d'art. Et j'avais un travail qui commençait à tendre vers une sculpture d'usage aussi. Donc j'ai rencontré tout d'abord le travail de Sophie Teuber et ensuite de Valentine Schlegel.
Peut-être quelques mots sur Sophie Teuber pour les personnes qui ne la connaissent pas du tout.
Oui, alors Sophie Teuber, je l'ai rencontrée à l'école, dans les catalogues monographiques qui étaient les livres que je lisais le plus lorsque j'étais étudiante. Ensuite, dès que je suis arrivée à Paris, parce que j'ai changé d'école, je suis passée des Beaux-Arts de Lyon à l'école des Beaux-Arts de Paris-Cergy. Et j'ai pu visiter sa maison à Clamart. Et là, j'ai pris conscience qu'elle avait travaillé son architecture. Elle a dessiné sa maison, elle a dessiné son mobilier. Et puis, l'extension artistique, ses dessins, ses collages, étaient pour moi une espèce de continuité comme ça de la création de sa maison et de son mobilier. Et d'ailleurs, il se rangeait même dans les meubles parce qu'effectivement, elle ne vendait rien. Et elle en avait conscience, elle avait même été jusqu'à mettre son atelier au dernier étage parce qu'elle savait que les collectionneurs s'arrêteraient seulement à l'atelier de Jean Harpe qui était au premier étage. Et du coup, tous, on va dire que toutes les formes artistiques qu'elle créait s'emboîtaient directement dans son mobilier.
Mais jusqu'à se fondre du coup, jusqu'à devenir presque en fait invisible ou pas visible du point de vue du statut de l'œuvre d'art habituellement.
Complètement. Et à ce moment-là, donc, je faisais un travail de recherche autour de sa vie et de son travail. J'ai fait un petit livre qui était une espèce de fiction biographique sur elle. Et 2 ans plus tard, il y a eu 3 expositions sur son travail, des très belles expositions. Et un catalogue d'exposition qui s'appelle Tomorrow, qui a un peu rendu hommage à son travail, qui avait été déjà montré, mais c'est vrai que là, c'était un très bel hommage qui rassemblait autant ses lampes que ses colliers, ses dessins.
Et alors, le point de rencontre avec Valentine Schlegel, qui arrive donc, en tout cas avec son travail, qui arrive donc par la suite.
Alors ça, c'est une rencontre un peu particulière, c'est une histoire un peu magique. Donc, j'étais au Beaux-Arts de Cergy. Et avec une de mes amies, Sophie Bonnet-Pourpé, on est parti en voyage ensemble pour visiter l'architecture moderniste. Donc des maisons qui ont été construites à la même époque que celle de Sophie Teuber. Et on se baladait tous les jours, on est parti un petit mois, et on se baladait tous les jours dans les maisons comme on peut faire des randonnées. Et pendant ce voyage, on voulait construire une sculpture commune. Et on s'est arrêté sur la cheminée, qui est un motif très présent dans ces architectures-là, autant que la piscine, hein, des motifs bourgeois de cette époque. Mais ce qui nous intéressait dans la cheminée, c'était que finalement, ça devenait un petit espace d'exposition domestique. Parce que à Los Angeles, elle ne servait quasiment jamais, parce que la température est assez stable. Et en tout cas, elle monte beaucoup l'été, mais descend très peu en hiver. Et de retour en France, je continuais à travailler à la Fondation Harpe Teuber en faisant ces recherches, et j'en ai parlé à la directrice, Claude Veil-Séjot, qui m'a conseillé de regarder le travail de Valentine Schlegel parce qu'elle avait été une de ses commanditaires. Elle lui avait fait 2 cheminées. Donc le lendemain, je reviens à la Fondation Harpe Teuber. J'étais allée un peu fouiller sur Internet. Il n'y avait quasiment rien, mais suffisamment pour me donner envie d'en savoir plus. Et donc je lui avoue que j'aimerais en connaître davantage, et elle me propose de rencontrer l'assistante Valentine, Frédéric Sichel-Dulong, qui travaillait aussi pour la fondation. Donc 2 jours après, on se retrouve à déjeuner dans un restaurant à Clamart qui s'appelle l'Araignée au plafond, où il y a une petite cheminée qui permet de griller la viande, et je rencontre Frédéric.
C'est une longue histoire qui commence ensuite, à partir de cette rencontre pour vous, Hélène Bertin, puisque ben, dans ce qu'on voit en ce moment à Sète, et ce qu'on a pu voir aussi à Brétigny, il y a des maquettes, il y a... Alors à Sète, il n'y a pas que le travail de Valentine Schlegel, mais on sent presque tout un monde, comme si, à partir de votre rencontre avec son assistante, il y avait quelque chose qui s'était déployé, quoi. Vous parliez du nom du resto, l'araignée, ben voilà, comme si vous aviez tiré sur un fil et que toute la toile était venue. J'imagine que c'est difficile à résumer, mais par quelle étape vous êtes passée dans l'exploration de ce travail et de cette vie ?
Alors, comment parler de ce parcours ? C'est, donc c'était un long chemin qui a commencé par... j'ai commencé par travailler de la même manière avec laquelle j'avais abordé le sujet de Sophie Teuber, donc... On va dire un travail assez intime et caché, et personnel. Donc j'ai doucement rencontré les amis de Valentine, regardé leurs archives, puis doucement partagé des moments de vie aussi avec eux, faire des repas, se promener, aller voir des choses. Et c'est une période qui a duré 3 ans. Et j'ai des amis à qui je partage mon travail, qui semblaient assez intéressés. Enfin, tout le monde commençait à avoir un intérêt pour son travail. Ils voulaient en savoir plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un vrai projet de recherche. Et j'ai demandé une bourse à la Fondation de France pour cataloguer toutes les cheminées qu'elle avait faites. Et donc ça a été le début d'une longue recherche, une longue enquête, parce que Valentine n'avait pas classé son travail, ne l'avait pas archivé. Donc il fallait retrouver, avec les images qu'on possédait, les commanditaires, le lieu où se trouvaient les cheminées. Ça a été très amusant. Je ne le referai pas parce que c'était vraiment un travail extrêmement long. Enfin, pour vous raconter une anecdote, je savais que Michel Manceau possédait une cheminée. C'était une ancienne journaliste. Et je savais aussi que c'était la voisine de Marguerite Duras. C'était les seules informations que j'avais. Et j'ai fini par retrouver l'adresse de la cheminée par l'infirmière de Marguerite Duras, qui était la même que Michel Manceau. Et finalement, j'ai trouvé les commanditaires. J'étais très contente. Enfin, c'était quand même un travail très amusant parce que je finissais toujours par les trouver. Et j'appelle les nouveaux propriétaires. Mais malheureusement, ils avaient détruit la cheminée 3 mois avant que j'appelle. Donc voilà, c'était assez rocambolesque.
Il faut quand même dire, Hélène Bertin, que vous avez, on l'entend par votre double formation au Beaux-Arts de Lyon, ensuite au Beaux-Arts de Paris-Cergy, une propre pensée, démarche artistique. Dans quelle mesure est-ce que ce chemin de cheminée en cheminée, j'avais d'ailleurs jamais fait le lien entre cheminée et chemin, ça devient un projet artistique, ça devient une ligne à la fois de vie et de création pour vous?
Alors, donc ce parcours, en fait, c'est vrai que avant, j'avais commencé par le projet de recherche de Sophie Teuber. Ça s'est prolongé avec le travail sur Valentine Schlegel. Ça se prolonge à nouveau sur un nouveau projet de recherche. C'est vraiment quelque chose que je considère dans ma pratique comme un questionnement. Et là, la question que je me posais, c'était des questions. La question à qui on adresse nos œuvres d'art. C'était vraiment une question d'adresse que je me posais en traversant le travail de Valentine Schlegel. Après, il y avait vraiment un rapport amoureux que je ressentais par rapport à son travail et qui a poussé cette relation aussi longue. Mais c'est quelque chose dans ma pratique que je considère comme une des lignes de recherche.
Je crois qu'il est temps de dire un peu plus à propos de elle, peut-être sa biographie, parce qu'on a dit comme ça des petites choses, la céramique, les cheminées, mais dire quand elle est née, quelle est l'importance de la ville de Sète dans son parcours, et dire aussi peut-être son rapport à la nature, son passage par les éclaireurs, éclaireuses, parce que tout ça va nous permettre peut-être de comprendre la suite.
Oui, donc Valentine Schlegel, elle est née en 1925 à Sète, dans une ville qui va profondément la marquer, qui est une ville qui a un caractère très particulier, une culture propre à elle, qu'elle soit culinaire ou folklorique. Elle a vraiment développé un caractère. Et Valentine va développer son propre caractère dans une ville qui en a déjà beaucoup. Elle va commencer à porter dès 15 ans des pantalons de marin, des chemises de gardien. Et être amie avec les pêcheurs. Elle vient d'une famille d'artisans qui possède une maison au bord du canal royal et elle passe ses week-ends plus tardivement dans une maison sur la corniche. Et donc pour revenir à son parcours d'éducation, elle a commencé... j'aimerais dire qu'elle a commencé avec les éclaireuses de France. Elle a prolongé ensuite son parcours à l'école des Beaux-Arts de Montpellier. où elle va faire plutôt du dessin et de la peinture. On peut encore voir une des peintures qu'elle a fait pendant cette période au bar de la Marine. D'ailleurs, c'est la seule qu'on pourra voir de cette époque. Et ensuite, elle décide de monter à Paris. Dans ce choix catégorique, elle va aussi changer de pratique. Elle va découvrir la céramique et commencer la sculpture. Et elle commence ce passage vers le modelage avec une amie, Frédérique Bourguet, avec qui elle va commencer à réaliser des céramiques, très influencées des céramiques grecques, et on pourrait dire même de la côte méditerranéenne. Et puis elle va collaborer à nouveau avec sa sœur, avec qui là, elle va commencer à développer un vrai travail de recherche plastique dans ses formes. Elle commence à s'influencer des choses naturelles qu'elle a fréquentées à Sète, hein, qui étaient sous ses pieds, les coquillages, les galets, les formes du sable de la plage. Et sa sœur, Andrée, va engober ses céramiques et ensemble, elle développe une céramique utilitaire mais très humoristique. Et puis, Valentine va décider de faire cavalier seule. Elle commence à faire une céramique beaucoup plus sculpturale en prenant à partie le thème du vase et commence à monter ses céramiques au colombin. Donc c'est une technique complètement archaïque mais qui permet de monter en trois dimensions et assez haut des objets en terre. La terre qu'elle utilise, c'est de la faïence chamottée. Et pour les couleurs qu'elle traite, c'est des couleurs qui pourraient être des couleurs qu'on trouve dans le monde végétal, hein, elle est sur des marrons, toujours des couleurs, enfin toujours deux couleurs l'une à côté de l'autre, des marrons gris ou des blancs bleus, des verts marrons. Et là, elle va commencer entre les années 50 et 60 à faire une grande série de vases qui est aujourd'hui assez importante. Des vases que j'ai présentés à Bretigny et à Sète, qui sont peu nombreux parce que c'est une époque où la céramique reçoit pas l'accueil qu'elle a aujourd'hui. Et voilà, et tout à l'heure, on a parlé de cette anecdote où elle commence à renverser son travail vers les cheminées. Donc, c'est à peu près à cette période-là.
Puisque vous parlez du fait de montrer justement ces céramiques, bon, moi je peux dire aux personnes qui nous écoutent, cette salle à 7 ou sur des épis, c'est ça?
C'est des roseaux sauvages qui sont tissés entre en Camargue.
Voilà, sont posées des céramiques au sol, pour ne parler que de cette installation-là. Et c'est une exposition, Tu m'accompagneras à la plage, où vous êtes présenté comme commissaire. Et donc à propos de ce rôle, on va entendre deux personnes, Jean Deloisy et Émilie Renard.
Quand Pennone à Avignon fait cette immense pièce en laurier et qu'on rentre dans la salle et qu'on est pris par l'odeur du laurier et puis ensuite qu'on voit ces grands murs verts en ogive extraordinaire, l'œuvre est aussi forte que la situation dans laquelle elle se trouve, et donc vous avez une complémentarité mentale et pas l'un au détriment de l'autre. Je pense que notre rôle est de rendre possible un élargissement de la vision qu'on a d'une œuvre, et je pense que quand ça. Et je pense pas qu'on soit notre rôle de la détourner de sa signification.
Moi, je suis peut-être pas aussi humble vis-à-vis des artistes, ou je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un rapport beaucoup plus d'égal à égal sur le rapport à l'autorisation, enfin à ce que je m'autorise de faire avec eux, avec leur accord. Je pense que les artistes aussi eux-mêmes développent une pensée de l'exposition et que les enjeux de l'art se sont étendus de l'œuvre à l'espace et aux limites de sa, enfin que ça pose la question de à quel moment est-ce qu'il y a œuvre, à quel moment est-ce qu'il n'y a plus œuvre et du coup à quel moment il y a exposition. Une exposition finalement au sens le plus restreint du terme, c'est un objet avec un visiteur et c'est une relation de 1 à 1. Et on peut aussi dire ceci est une exposition autant que ceci est une œuvre d'art. Enfin, c'est vraiment une question très de conception en fait.
Je dis, rajouterais simplement que on sait très bien qu'historiquement, l'artiste a pris très largement en charge le travail d'exposition et de conception de l'exposition de ses propres œuvres. Munch faisait la présentation, l'exposition, le réglage de ses propres œuvres. Courbet installait ses œuvres dans des situations particulières pour en donner une spectacularité, faire une relation entre son œuvre et le cinéma qui n'existait pas encore mais qu'il inventait d'une certaine façon. Et les autres qui faisaient cela, c'était les collectionneurs. C'est-à-dire que les collectionneurs avec les artistes, dans leur galerie ou leur cabinet de curiosité, installaient les œuvres de façon à produire quelque chose. Donc c'est quelque chose qui était différent dans l'histoire, si je puis dire.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
On entendait Jean Deloisy et Renard au micro de l'émission Zone de Libre-Échange sur France Culture en 2008 parler de leurs conceptions différentes qui se croisent et qui ne se croisent pas du métier de commissaire. Hélène Bertin, comment vous réagissez à ces deux visions de l'exposition et du rapport au travail de l'artiste ?
Alors, donc moi je me sens ni commissaire, ni artiste, ou alors les deux en même temps. Enfin, je sais pas trop où je me situe. Enfin, je suis pas sûre de me situer quelque part, en tout cas. En tout cas, dans la manière dont j'ai travaillé sur l'exposition, c'est effectivement un regard qui réagit à ce que sont les expositions monographiques. De la même manière, lorsqu'on a travaillé sur le livre, c'est un catalogue monographique qui est une réaction au catalogue monographique.
Mais une réaction critique.
Tout à fait. Oui, je pense que cette exposition, qui est pour moi une exposition monographique, c'est une critique des expos monographiques qui montre en général l'artiste lui seul. C'est une vision que j'ai envie de contredire avec cette exposition, qui montre le travail de Valentine avec une personne qu'elle a assistée, une personne qui l'a assistée et un ami à elle. Qui n'est pas artiste, mais qui l'a beaucoup influencé. Donc c'est une manière de montrer un artiste avec les personnes qui l'ont accompagné, et pas comme une personne solitaire qui voyage tout seul. Donc c'est une réaction, effectivement, aux expositions monographiques.
Quant à la liberté qu'on s'octroie ou qu'on s'octroie pas, quelle que soit la manière dont on se définit, commissaire ou artiste, elle est de quel ordre vous concernant, Hélène Bertin, par rapport à Valentine Schlegel ?
Je veux dire que c'est une vraie liberté parce que Valentine, ce qu'elle m'a permis, c'est d'être libre en tout cas. Et je crois que c'est ce que j'ai recherché dans son travail. C'est une forme de liberté et c'est vraiment ce qu'elle m'a appris. Enfin, ce que son travail m'a appris d'ailleurs. Et après, c'est des libertés qui sont pas non plus... Par exemple, le choix de montrer ces roseaux sauvages, c'est quelque chose que j'ai repéré chez elle dans des photographies... des années 50, qui montrait sa maison à Paris. À l'époque, elle avait mis sur les murs des canisses. Et donc, j'ai simplement récupéré ce matériau qu'elle avait ramené de Camargue à Paris pour lui rappeler, à mon avis, une petite Madeleine de Proust ou un sentiment, en tout cas, de bien-être ou un petit rappel du Sud, comme ici, on a des herbes de Provence sur la table et qui, moi, me mettent dans un espèce de confort dans ce studio. Et je les ai seulement couchées au sol pour poser les vases de Valentine dessus. Donc c'est quelque chose que j'ai pioché dans son univers. Je ne l'ai pas fait atterrir comme une météorite dans l'exposition.
Quand vous dites que vous êtes allé chercher de la liberté chez Valentine Schlegel, ou plutôt que son travail vous a emmené vers ça, est-ce que vous sauriez nous en dire davantage ? Qu'est-ce qui, dans la pratique, dans la vision, dans la pensée de Schlegel, relève d'une grande liberté ?
Je crois qu'elle a vraiment inventé une manière de travailler, une manière de vendre son travail, une manière de ne pas appartenir à l'histoire de l'art et... de pas de pas trouver ça grave. Je crois que c'était quand même une forme de liberté de pouvoir mener un chemin artistique à l'ombre des autres artistes. Valentine, par hasard, elle a quand même été entourée de personnalités qui ont eu un travail qui a été assez visible, que ce soit Jean Villard, Agnès Marie, Varda, Jeanne Moreau. Enfin, il y a beaucoup de personnes autour d'elle qui ont eu un travail qui a été visible. Et Valentine, elle a travaillé dans des espaces privés qui ont rendu aussi son travail invisible. Et oui, je pense que ça, c'était une forme de liberté, de vivre un peu caché.
Ce qui va, vous l'entendez bien, à rebrousse-poil de tout un discours ambiant qui regrette aujourd'hui que dans l'histoire de l'art, si peu de femmes aient leur place, aient été reconnues pour la qualité et l'ampleur de leur travail et de leur pensée. C'est intéressant de vous entendre défendre les choses de cette manière-là, Hélène Bertin.
Oui, alors, c'est effectivement, je pense que cette amnésie collective sur une époque, c'est bien d'en parler et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Sur une époque ou sur un genre ?
Sur un genre,
aussi question,
voilà.
Ouais.
Oui, c'est sûr que c'est... Enfin, moi, ce n'est pas ce que j'ai cherché. Ça aurait pu être un homme. De toute façon, elle avait aussi un côté très masculin. Je ne crois pas que c'est... En tout cas, ce n'est pas parce que c'est une femme que son travail m'a intéressée. C'est plus...
Ni parce que c'est une femme que son travail était invisible.
Alors, je pense que son travail a été invisible, contrairement à Sophie Teuber, qui a vraiment eu un travail invisible parce que c'était une femme à cette époque-là. Je pense que Valentine Schlegel, c'était beaucoup plus complexe parce qu'elle avait un travail qui était entre la sculpture, l'architecture, les arts décoratifs, le design, qui lui permettait pas de s'inscrire, en tout cas, dans une catégorie, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et complexe. Et je pense que c'était une des raisons. La seconde raison, c'était que c'était dans des espaces privés. Voilà.
Et vous voyez ça comme une liberté, mais qui est aussi une liberté transposable dans votre propre parcours artistique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que si on parle un petit peu de ce que vous produisez, vous, c'est-à-dire aussi à la croisée de plein de disciplines, de plein de pratiques, pas toujours, comment on pourrait dire, vendables, vous voyez là-dedans une possibilité, une liberté dans l'exercice de vos pratiques, Hélène Bertin.
Oui, complètement. Enfin, en tout cas, en ce moment, mon nouveau projet de recherche, c'est sur une fête de mon village.
Qui est la fête de l'arbre.
La fête de l'arbre de mai. Et c'est vrai que là, c'est un projet de recherche anthropologique. Et le projet sur Valentine, c'est un projet qu'on pourrait situer dans un projet pour les historiens de l'art. Et effectivement, je pense que aujourd'hui, je me sens capable d'aller vers n'importe quel sujet qui m'attire réellement. Et ça, c'est sûr que Valentine a permis de libérer ça.
Est-ce que le fait que, je ne sais pas quels ont été, s'il y en a eu des rapports avec elle directement, est-ce que ça a nourri justement votre propre rapport à son art ?
Je pense que ça a nourri une forme d'affection particulière. Donc Valentine, j'ai passé beaucoup de temps chez elle parce que j'ai étudié sa bibliothèque, j'ai restauré ses maquettes. J'ai déjeuné avec elle. Quand je l'ai connue, elle avait un Alzheimer qui était beaucoup moins développé. Donc Valentine a 93 ans aujourd'hui, un Alzheimer assez développé. Et quand on passe beaucoup de temps avec elle, il y a forcément des moments où les choses se reconnectent et où elle va chanter une chanson qu'elle chantait il y a 50 ans en se rappelant parfaitement des paroles ou alors... me parler de ces objets en lui disant que ça lui dit quelque chose. Et c'était des moments très importants pour moi parce que c'était un travail de recherche très particulier qui s'est vraiment pas fait de manière classique. On va dire que je suis quand même maintenant proche de beaucoup de ses amis. Et il y a des relations qui se sont établies. Donc oui, c'était particulièrement important, ces connexions.
Si bien que quand on passe dans un champ qui est quand même le champ du visible, le centre régional de l'art contemporain à Sète, c'est un endroit du visible, même si vous l'avez teinté particulièrement, cet endroit du visible, qu'on y entre et qu'on y évolue, je trouve, autrement que dans plein d'autres expositions, Hélène Bertin. Est-ce que ça a été un moment délicat, cette expo et les autres hein, d'ailleurs, pour vous, à négocier ? D'un seul coup, ça devient très visible.
Je pense que ce travail mérite en tout cas d'être vu par beaucoup de monde parce que je crois que ça peut. Je suis assez triste qu'elle voit pas ce qui se passe. Par contre, je le fais pas pour elle. Aujourd'hui, je pense que c'est un travail qui peut influencer beaucoup de gens dans leur pratique. Je sais que chez moi, ça a changé beaucoup de choses. Sur le livre, par exemple, un couteau est imprimé. Et c'est vrai que je considère ce livre vraiment comme un outil et pas seulement comme un catalogue biomonographique. Et l'exposition, c'est un peu la même chose. C'est aussi des outils que j'ai envie de donner aux autres. Et effectivement, mais c'était un moment... Oui, ces deux expositions, c'était des gros projets. C'était les premières relations à l'espace d'exposition que j'ai eues. Donc au crack de 7, c'était encore plus angoissant parce qu'on se retrouve dans un espace de 7 mètres sous plafond et ça devient tout de suite plus compliqué de jouer. Mais finalement, c'était une belle partie de plaisir.
La bouilloire est sur le feu de la cuisinière. La bouilloire boue, l'eau frémit dans le café de la cafetière. Je vais vite chercher du pain à la boulangerie. La rue réveille mes cheveux endormis. Il est tôt, j'ai envie de croissant chaud. Ça c'est bien dommage. Fermé, c'est marqué sur le papier collé. Sur le volet fermé. Un instant je reste là, stupéfié, interdit. C'est pourtant jeudi. Sans tarder, sans hésiter, je cours vite chez le pâtissier. Je vais vite chercher du pain de mie. C'est pas loin, mais mon bon café refroidi. J'ai envie de pain de mie. Ça c'est bien dommage. Fermé, c'est marqué sur le papier collé, sur le volet fermé. Sans tarder, sans hésiter, je cours vite chez Louise. Louise l'épicière, pain d'épices et pain de lait. Louise ne ferme jamais, il me faudrait des biscottes ou bien des biscuits. J'en ai plein les bottes, il est bientôt 10h30. J'ai envie de pain de mie. Ça c'est pas du champ. Fermé, c'est marqué sur le papier collé, ensanglanté.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
On entend à l'instant le volet fermé de Dick Haenggaard, mais c'est vous qui nous l'avez soufflé, Hélène Bertin. Alors moi, je vais vous dire à quoi ça me renvoie par rapport à tout l'univers de Valentine Schlegel et par rapport à votre travail à vous. C'est vraiment la dimension quotidienne. Dick Haenggaard, dans cette chanson, il raconte ce qu'il vit. C'est un tout petit chemin qu'on fait avec lui, très serré. Et vraiment, jusqu'au titre du livre biomonographique « Je dors, je travaille », c'est vraiment l'imbrication entre justement toute cette quotidienneté et ce que par ailleurs on est obligé d'appeler une vie d'artiste, enfin une production artistique Hélène Bertin. Comment ça se conjuguait pour Valentine Schlegel?
Donc « Je dors, je travaille », le titre du livre sur Valentine Schlegel vient d'un petit panneau qu'elle mettait sur la porte de son atelier à 7. Et on a choisi ces mots pour le livre. « Je dors » pour le côté... on va dire biographique, et je travaille pour son côté artiste, mais finalement on s'est vite rendu compte que les choses se balançaient de l'un à l'autre de manière assez complexe, même dans son travail, ou alors on va dire un travail d'exposition avec ses grands vases ou ses cheminées, enfin d'exposition d'achat, et un travail beaucoup plus amical et discret qui sont tous les objets en cuir, les petits objets en céramique comme les sifflets, des objets en liège. Ces petits objets, elle va les faire pendant son temps libre avec ses amis, que ce soit l'été quand elle vient à Sète ou à Paris lorsqu'elle travaille pas au Musée des Arts Décoratifs. Et c'est vrai que ce rapport quotidien, au travail, aux petites choses, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en valeur dans le livre. Donc le livre, je l'ai conçu avec Colline Sunier et Charles Mazet, qui sont les graphistes de Je dors, je travaille, sur Valentine Schlegel. On a réfléchi ensemble. En fait, on a vraiment travaillé en collaboration et au quotidien. Je les ai invités à venir vivre à mon atelier à Cucuron pour réfléchir sur ce livre avec la base d'images que j'avais collectée. Et très vite, on s'est rendu compte que ce qui serait intéressant de mettre en travail, c'est autant sa vie personnelle, donc une partie des photos de sa vie qui montrait son bateau, le passage chez les éclaireuses ou les moments passés avec sa famille, et une partie sur son travail, donc autant son travail où elle travaillait seul, donc tout son travail en céramique, ou son travail collaboratif, ses petits objets qu'elle créait pendant ses temps libres avec ses amis, donc des objets en liège ou en cuir, ou les petits sifflets en céramique qu'on peut voir dans le livre. Et le grand travail autour des cheminées, qui a été la partie la plus importante du livre, qui était le rassemblement des 100 cheminées qu'elle a créées des années 60 aux années 2000. Et c'est vrai que dans le livre, c'est un livre chronologique qui montre le début de sa vie jusqu'à la fin de son travail, parce qu'on s'est arrêté aux années 2000 lorsqu'elle a arrêté de produire. Et ce rapport quotidien, je pense qu'on peut le ressentir dans cet ouvrage, parce que on remarque qu'elle va créer des couverts à salade. Des petits tabourets qu'elle a fait dans sa cuisine extérieure à 7, tous les objets quotidiens qu'elle crée jusqu'aux intérieurs complets des maisons.
Quand on feuillette ce livre-là, ou même quand on passe du temps avec Hélène Bertin, il y a quelque chose que je disais en introduction qui relève de la quiétude. Je disais que pour moi, c'est un travail très puissant, mais c'est aussi un travail très serein. Est-ce que vous pensez que c'est juste une projection où il y a eu quelque chose dans la ligne de vie, dans la ligne de production et de création de cette femme qu'on peut dire de cet ordre-là?
Oui, ben, tout à fait. Quand j'ai titré l'exposition à Bretigny, « Cette femme pourrait dormir dans l'eau », c'est exactement ce que son ami pêcheur voulait insinuer. C'était une personne qui faisait la sieste n'importe où. J'ai vu des photos d'elle sur des bancs publics à Paris ou au bord de la plage en train de dormir. Je crois qu'effectivement, c'était une personne assez sereine dans le monde et qui avait un rapport très particulier au quotidien, très attentive, que ce soit les plantes qu'elle faisait pousser dans son jardin, dans sa villa à 7, où elle passait la moitié de son temps. En fait, lorsqu'elle n'était pas à Paris, elle retournait à 7. Et effectivement, ce rapport à tous les objets qu'on peut voir chez elle... Et assez précis, parce qu'elle fabriquait quasiment tout, que ça soit de la porte du placard aux objets qui le constituent à l'intérieur. C'est une forme de poupée russe où chaque enveloppe est pensée par elle-même et l'amène à penser à l'objet qui va englober celui d'après.
Ça veut dire qu'aussi, la grande création, c'est le quotidien. Quand je lisais ces mots qui clôturent, mais qui ouvrent en fait la lecture du livre, à savoir « J'aime le quotidien exceptionnel », on entend bien que si finalement il y a une grande œuvre, ce serait ça en fait. Ce serait sa vie, son existence, ce serait une grande œuvre, sans réduire évidemment les réalisations plastiques, solides, qu'on peut toucher du doigt, vous voyez, mais comme si c'était ça sa création.
Oui, effectivement. Enfin, je crois que c'est ce que j'ai essayé de mettre en valeur dans le livre. Enfin, sa fourchette en acajou, pour moi, est aussi importante que la grande cheminée que j'ai pu voir dans la rue Saint-Honoré de Paris. Enfin, il y a quelque chose comme ça où tous ces objets, qu'ils soient petits ou grands...
Mais peut-être même aussi sa pancarte qu'elle retourne « Je dors, je travaille ».
Complètement. Il y a une attention particulière pour chaque chose, qu'elle soit grande ou petite, qui lui est vraiment propre.
On l'écoute de nouveau.
Ici, à l'atelier de modelage et de sculpture, les enfants sont très silencieux, ils le sont de nature, et ils sont très attentifs. C'est un métier qui n'est pas tout à fait à la portée des enfants. Ils ont beaucoup de mal. Dans les 6 premiers mois, c'est toujours comme cela qu'on commence. Apprendre d'abord la galette, les bas-reliefs, ensuite le colombin et tout ce qui est poterie. La poterie et le colombin est plus à la portée des petits. Après, le modelage, d'après nature. D'après la nature, les coloquintes, une écorce, une branche d'olivier, des ailes. Je leur ai donné à faire un bas-relief sur la chute d'Icare. Une paire d'ailes, des fruits, des légumes. Tout ce qui est dans la nature est sculpture. Ensuite, je les fais travailler autour. Bien après avoir fait beaucoup de poterie au colombin. Le tour demande déjà une force physique et une grande adresse et une grande sensibilité de la terre. Et après, ils ont l'ambition de travailler la sculpture pure. Je leur donne des sujets très difficiles, par exemple le silence. Et simplement, je leur dis, essayez de traduire l'émotion du silence. Avec des formes silencieuses.
Ce qu'elle est très ambitieuse dans ses demandes et dans ses propositions faites aux enfants. C'est un film d'Agnès Varda. C'est Les enfants du musée, un film de 6 minutes en 1966. Le premier plan, c'est un enfant qui va, je crois, sur une trottinette ou un vélo, je sais pas, qui se rend, on imagine, à un atelier qui est ensuite filmé par Agnès Varda. Et on voit les enfants qui sont vraiment à l'œuvre, qui ont des productions de sculpturales et des demandes, voilà, de traduction du sentiment du silence. Ça a eu quoi comme part dans sa propre vie à Valentine Schlegel, ces moments de transmission, alors là, en l'occurrence, au Musée des Arts Décoratifs, Hélène Bertrand?
Alors, dans la propre vie de Valentine, je ne sais pas quelle part ça a eu. Par contre, chez ses élèves, ça a eu quand même un grand impact. J'ai rencontré beaucoup de ses anciens élèves. D'ailleurs, Frédéric Sichel-Lulong, qui l'a assisté toute sa vie, était un de ses élèves. Je crois que ça a été un moment très marquant. Enfin, en tout cas, beaucoup d'entre eux se souviennent assez bien de ces cours. Beaucoup d'entre eux sont devenus artistes. Et ce qui est assez amusant dans cette histoire, enfin, tout du moins important, c'est que c'est François Mathé qui a ouvert les ateliers. Au départ, c'était les ateliers des moins de 13 ans. Et Valentine Schlegel a été la première professeure de modelage pendant que Pierre Belvès était professeur de dessin. Et donc la volonté de François Mathé à ce moment-là, c'est de transformer le musée qui était vraiment un sanctuaire en un lieu de transmission. Et donc il a fait diverses choses, il a organisé des conférences et il a notamment créé ses ateliers. Et Valentine a été invitée à partir de 1957 et y a travaillé jusqu'à 87, donc ça a été une grande période dans sa vie. Et aussi une assurance d'un travail aussi alimentaire, hein, faut quand même le dire, qui lui a permis de continuer sa vie d'artiste comme elle le souhaitait.
Je pense que là aussi, c'est intéressant de faire le lien avec votre propre travail et votre propre pratique, Hélène Bertin. Vous envisagez aussi les moments de monstration artistique ponctués de plein de moments de vie, des repas, des promenades, des châtaignes à la cheminée. Ça aussi, c'est des choses qui vous ont été transmises par Valentine Schlegel, ou c'était aussi très présent dans votre travail initialement?
Je pense que c'est déjà des choses qui étaient un peu présentes, mais c'est vrai que tout à l'heure je disais que le travail de recherche était une des lignes de mon travail. Moi, je définis un peu mon travail en trois parties. Donc il y a ce travail de recherche qui est un travail de questionnement théorique qui me permet de me libérer, en tout cas dans mon travail, de questions qui me préoccupent. Et ensuite il y a un travail, on va dire, de sculpture égocentrique, ou alors de rapports un peu sauvages aussi, donc un travail assez individuel, et des organisations de workshops, donc d'ateliers que je fais au sein de mon atelier à Cucuron, où j'invite des personnes pendant une semaine ou un week-end à travailler, donc soit autour de la cuisine. La semaine dernière, on a fabriqué du papier à partir de cannes de Provence, du papier végétal. On a découvert la cellulose. Et voilà.
Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur. Je chéris ton cœur adoré. Dans un coin d'architecture manqué, un méandre de la cité, allons bon, cachant à ma raison que du temps a passé. Je chéris ton cœur adoré. La nuit je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Chéris ton cœur adoré.
Le couteau, c'est l'instrument fondamental de l'homme.
Croyez même.
Ah oui. Un homme sans couteau n'était pas un homme, il y a, il y a 30-40 ans.
C'est des symbolismes.
Dans les auberges, non, non. Dans les auberges, on ne mettait pas de couteau à table. Chaque homme avait son couteau sur lui. Alors il y avait des milliers de couteliers qui faisaient des objets d'art merveilleux qu'on appelait des couteaux. Pliants, ornés, ciselés, incrustés, à une, deux, trois, quatre, cinq, six lames. Les chirurgiens anglais avaient des couteaux de chirurgie merveilleux avec les vétérinaires qu'on voit dans les gravures anglaises. Vous savez, ces gravures de cheval avaient tous dans leur poche un couteau superbe avec tout ce qu'il faut pour soigner le cheval. Pour lui faire une saignée, si c'est nécessaire. Et puis alors les lames, la scie, tout. Et puis alors, il y a eu des couteaux superbes. C'est un des instruments les plus anciens du monde. Depuis les couteaux en silex de la préhistoire, j'ai beaucoup de préhistoire.
Vous avez, aussi.
J'ai beaucoup de choses préhistoriques chez moi aussi. Des pointes de flèches, des choses comme ça. J'aime beaucoup ce genre de choses.
Mais vous-même, enfin, les couteaux, c'est un objet qui vous dit des choses.
C'est un objet qui a une énorme importance pour moi. Le couteau, je trouve ça beau. C'est super, mais je n'aime pas le couteau qui est fait pour tuer. J'aime le couteau utilitaire. Le couteau qui est dans la poche de l'homme parce que c'est son compagnon, il va couper son saucisson avec son pain, la ficelle, il va faire un trou dans une courroie, il va... voyez-vous, il s'en sert, c'est un instrument dont il se sert quotidiennement et qui est vraiment ce qu'il a le plus proche de lui.
C'est une archive de 1977 et je ne fus pas la seule à l'écouter en souriant, Hélène Bertin, tant ce réalisateur italien Mario Ruspoli, dans sa discussion avec la journaliste, semble comme ça ne pas du tout attraper toutes les perches qu'elle lui tend sur la dimension phallique du couteau et sur cet attribut parfaitement masculin. On termine avec ça parce que dans cette exposition qui est présentée en ce moment à 7, l'une des installations les plus impressionnantes, c'est ce mur de couteaux, ces vagues de couteaux qui reprennent la collection de Valentine Schlegel et que vous installez en suivant des installations qu'elle faisait elle-même.
Alors donc c'est amusant que cet archive de 77, c'est seulement 3 ans après l'exposition, il collectionne l'exposition au Musée des Arts Décoratifs où François Mathé invite plusieurs collectionneurs à montrer leur collection, dont Valentine qui présentera la collection en état de 1974 de ses couteaux. Donc, sa collection de couteaux, c'est une collection qui commence à peu près quand elle arrive à Paris. Et ce sont des cadeaux. Ce sont les cadeaux que ses amis lui ramènent de voyage. Et elle les accroche doucement au mur, un petit peu comme des bancs de poissons. Et elle se constitue d'année en année. Aujourd'hui, elle est installée chez elle entre trois murs. Donc, c'est une collection qui se referme. Et pour l'exposition à 7, je les ai dépliés sur le mur, comme une grande cartographie, avec beaucoup plus d'espace que dans son intérieur, où ils sont resserrés entre eux. Mais en tout cas, la forme est donnée dans sa cartographie personnelle. Et ce qui est amusant, c'est que c'est aussi sa toile amicale qui est représentée de manière murale.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que quand ses amis viennent à l'exposition, ils me disent voilà, c'est le couteau que je lui ai ramené à l'atelier l'endroit. Donc chaque couteau appartient à une personne. Chaque couteau est une personne. Et finalement, d'avoir une représentation amicale chez elle, hein, je trouve que c'est très beau. Enfin, moi, c'est aussi comme ça que je le vois. C'est ses rapports sociaux.
Oui, et c'est très en accord avec la manière dont vous avez pensé l'exposition, en la situant au milieu d'un réseau de relations différentes et d'accompagnement. Différent.
Complètement.
Tu m'accompagneras à la plage avec un point d'interrogation. C'est le titre de cette exposition qu'on peut voir en ce moment au Centre Régional d'Art Contemporain à 7. On a beaucoup parlé aussi de ce livre qui s'appelle « Je dors, je travaille ». Merci beaucoup, Hélène Bertin. On pourra bientôt voir votre propre travail. Mais on ne sait pas où.
Oui, on ne sait pas encore où. Merci beaucoup, Marie Echeux.
Sors du lit. Ça sent la vieille croûte de fromage, le brûlé d'une casserole usée. C'est l'heure, oui, c'est l'heure du piano saucisse haricot. C'est l'heure, oui, c'est l'heure du piano saucisse haricot.
À la prise de son ce soir, c'était Philippe Mercher, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riondet. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de Par les temps qui courent pour écouter quand vous voulez, où vous voulez. Dans un instant, c'est le journal 22h sur France Culture. Très belle soirée.
Les plombs ont déjà sauté 6 fois. Adieu piano, saucisse, aligot. De toute façon, c'est plus l'heure, non, c'est plus l'heure. Souvenirs de saucisses ligotées. C'est l'heure.